la science politique est tournée vers la description des manières de vivre et des institutions politiques, tandis que la philosophie politique, c'est une discipline qui n'a rien à voir dans un certain sens. C'est une discipline qui évalue le meilleur régime politique possible, la meilleure forme de vie politique possible. Vous voyez, il y a un discours de type descriptif d'un côté et un discours de type évaluatif de l'autre. Et en fait, ces deux disciplines sont souvent en contradiction. La science politique reproche à la philosophie politique de juger, de porter un jugement. La science politique estime que la philosophie politique estime, pardon, que la science politique ne va pas assez loin en décrivant des réalités sans les évaluer. Voilà. Donc moi, je suis, et j'y tiens beaucoup, à cheval sur ces deux disciplines. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, tester ces deux disciplines sur la question, les mettre en œuvre et les tester, tester leur discours sur la question de la citoyenneté européenne. Qui est une question qui relève, évidemment, d'institutions, de manières d'être, de manières de vivre qui sont réelles, qu'il faut décrire objectivement, mais aussi, en tant que vous êtes des citoyens ou de futurs citoyens français, et donc aussi, on va voir, des euro-citoyens, il est important que la philosophie politique s'en mêle pour que nous puissions, notamment dans la discussion, évaluer ce qu'il en est de cette citoyenneté européenne, la juger, et savoir ce qu'on peut en attendre. Alors, je voudrais... Merci Mathilde. Je vais commencer en introduisant mon propos, en vous disant que pour traiter la citoyenneté européenne, il faut d'abord caractériser la citoyenneté, évidemment. Alors, la citoyenneté, pour aller vite, on peut la définir comme la reconnaissance de l'appartenance à un ensemble, à une certaine collectivité. Un citoyen fait partie d'une collectivité. Il possède et exerce certains droits. Ces droits visent sa protection comme individu. Alors, on peut parler des droits à la protection sociale et de ce qu'on entend en général par droit de cité, le fait d'habiter quelque part et d'y avoir certaines prérogatives. Mais enfin, la citoyenneté définit aussi la participation aux affaires politiques d'un pays. On entend par citoyenneté, vous voyez, le fait de pouvoir agir sur les destinées de l'ensemble dont on est membre. Et il est évident que si vous êtes citoyen, si même vous vous intéressez à la politique ou si vous vous engagez politiquement, c'est dans le but de changer les choses et d'agir sur l'histoire de votre pays. Alors, première remarque, on peut être évidemment résident d'un pays sans être citoyen. Les travailleurs immigrés résident dans un pays, ils travaillent, mais ne sont pas citoyens. Alors, vous voyez, ici, il va y avoir une réflexion nécessaire sur la distinction et les relations entre citoyenneté et nationalité. C'est un des enjeux, vous allez voir, une des conséquences très importantes de la réflexion sur la citoyenneté européenne. Citoyenneté et nationalité ne sont pas la même chose. On peut donc être résident, si vous voulez. On peut être national d'un pays, avoir une carte d'identité d'un pays, et ne pas exercer sa citoyenneté. Il y a donc trois choses qui sont à distinguer. Résider dans un pays, donc ni être que résident, ne pas être natif du pays, ni national de ce pays, et ne pas exercer ses prérogatives. Première posture. Deuxième posture, on peut très bien être natif d'un pays ou national d'un pays, posséder de ce fait la citoyenneté et ne pas l'exercer. Deuxième posture. Ceux, par exemple, qui sont français, qui ont les droits de cité et de citoyenneté français et qui ne les exercent pas, relèvent de cette catégorie. Troisième posture, évidemment, on peut être citoyen au sens plein et entier, c'est-à-dire à la fois résider ou non dans un pays. D'autre part, y avoir droit de cité, en ce sens qu'on est un national du pays, et ensuite participer donc à la politique du pays. Alors vous voyez, donc ces trois choses sont distinctes. Cependant, dans une certaine mesure, elles sont tout à fait liées. Je l'ai dit, en distinguant artificiellement la nationalité et la citoyenneté, on ne voit pas qu'évidemment la nationalité donne la citoyenneté. Et il faut bien le dire, la nationalité donne la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qui fait le lien entre les deux? Qu'est-ce qui fait qu'il y a même une tendance des citoyens, une fois qu'ils ont leur carte d'identité, leur passeport, à aller voter? Ben simplement, l'idée d'une appartenance. L'appartenance, notamment, à une tradition, à une culture, à une langue, le fait d'être locuteur, comme on dit, de posséder donc la faculté de s'exprimer dans une certaine langue. Tout ça fait qu'il y a un sentiment d'appartenance nationale qui souvent nous détermine à agir de manière citoyenne. en ce sens déjà, de participer aux affaires de la cité en allant voter, et éventuellement en s'impliquant dans la politique au niveau où elle se définit, c'est-à-dire au niveau local, dans les municipalités, au niveau départemental, au niveau régional et éventuellement au niveau national. Voilà. Alors, vous voyez, première caractérisation de la notion de citoyenneté. Nous, on va parler de la citoyenneté européenne, qui implique plusieurs points particuliers. Premier point, l'existence d'une citoyenneté européenne implique que l'on pense précisément la citoyenneté au-delà de la nationalité. À savoir dans un ensemble plus vaste, composé de 27 nations, dont l'histoire est différente, de même que la culture et les langues. Le type même de droit dont bénéficient les citoyens au niveau des nations européennes est différent. L'exercice de la citoyenneté est différent en fonction des différentes nations. Voilà, donc on a affaire à, vous voyez, penser un ensemble, une manière d'être qui serait commune à partir de différences locales parfois très prononcées. Alors, premier point. Deuxième point, là je vote peut-être des choses que vous connaissez, mais c'est important qu'on ait une sorte de terrain commun avant de s'envoler vers les hautes sphères de la philosophie. L'Union européenne est une fédération au sens non politique du terme. L'Union européenne est une fédération au sens non politique du terme. En effet, elle repose sur l'idée qu'il y a une autonomie des membres qui sont liés par des règles. Ça ressemble à une fédération. Mais ce n'est pas une fédération au sens politique du terme. Très précisément, ce ne sont pas les États-Unis d'Europe. Ce ne sont pas les États-Unis d'Europe. En effet, les États-Unis, de leur côté, d'Amérique, impliquent des gouverneurs dans les différents États et un gouvernement fédéral. Un gouvernement fédéral avec, évidemment, des prérogatives très importantes. Vous avez entendu parler, tous, vous avez tous même assisté au triomphe du président Obama, qui est le président des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas de président de la Fédération européenne. Et le choix qui a été fait dans l'orientation de la forme qui a été prise pour l'Union européenne, fait qu'il ne peut pas y en avoir pour l'instant. On va y venir dans les faits. Voyez donc la difficulté pour penser une citoyenneté européenne pleine et entière sur le modèle de la citoyenneté nationale. La difficulté est multiple. Il semble manquer une unité sur le plan formel. La forme même de citoyenneté nationale est différente, tant sur le plan donc de la forme que sur le plan de ce qu'on peut appeler le vécu, ce qu'on peut appeler, avec un mot un peu plus technique, les affects communs, le fait d'être lié par un sens patriotique communautaire. Alors, au-delà de ces difficultés, si vous voulez, il faut réfléchir à ce que signifie politiquement, pour les citoyens, une citoyenneté européenne. Faire la politique, ça consiste en quoi? À mon avis, trois choses. Réfléchir et discuter sur les valeurs communes, si on était ici une société complète, si on était ici l'ensemble d'une nation, d'un pays. Faire de la politique, ça serait trois choses. D'abord, discuter entre nous sur les principes qui vont organiser notre vie, qui fait quoi et comment, mais aussi sur les valeurs qui organisent cette vie. Quelles sont les valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons? Sommes-nous pour la liberté? Sommes-nous pour l'égalité? Sommes-nous ou non pour la solidarité? Bon, des valeurs qui sont, j'évoque des valeurs qui sont fortes dans notre tradition et dans la tradition européenne. Alors attention, on appelle ça délibérer. On va discuter ensemble. Discuter en essayant de s'entendre. Ça exclut d'emblée le champ politique, on exclut toute solution de type individualiste. Faire de la politique, c'est essayer de réfléchir, même si on garde son quant à soi, à ce qui fait que, en commun, on peut faire quelque chose. Ce qui n'empêche pas, dans la vie privée, et même dans le monde du travail, le monde éventuellement du commerce, d'avoir son quant à soi et d'être individualiste. Vous voyez, faire de la politique, ça serait d'abord discuter ensemble des liens qui sont entre nous, des principes et des valeurs. Ça serait d'autre part tenter de dégager une volonté commune. Vous voyez la difficulté. Essayer de s'entendre au point que tout le monde va être plus ou moins satisfait, et on va dire, nous, peuple de l'école hôtelière d'Avignon, nous décidons que ceci est bon pour nous. Ce serait le deuxième aspect, délibérer pour trouver une volonté commune. Troisième aspect, encore pire, il s'agirait ici, collectivement, de penser notre passé et notre présent en fonction de notre futur. Il n'y a pas de politique au sens plein et entier du terme, il n'y a pas d'exercice de la citoyenneté sans la volonté assez folle, quand on y pense, d'adopter des décisions collectives qui vont faire l'histoire. Adopter des décisions collectives vont faire l'histoire. Alors vous me direz, il y a des petits peuples, hein. Peut-être qu'on serait un petit peuple sans beaucoup de vocation historique. Il y a aussi des grands peuples historiques. Il y a des peuples dont les décisions changent l'histoire du monde. Il y a des peuples dont les décisions ont changé l'histoire du monde. La France en fait partie. Il y a des peuples dont les décisions changent l'histoire du monde. Peut-être que les USA en font partie. Et peut-être qu'un des enjeux de la citoyenneté européenne, c'est reconfigurer un ensemble tellement vaste, tellement multiple et tellement puissant qu'il peut changer l'histoire du monde. Vaste tâche, n'est-ce pas? Simplement, et ça serait une sorte de réflexion en ligne, pour finir cette introduction, une réflexion en ligne de fuite, en horizon, peut-être que réfléchir à la citoyenneté européenne, ça va changer tout ça. Peut-être que la définition que je viens de donner de la politique, c'est un type de problème qui concerne la politique nationale. Peut-être que c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant dans le cadre des nations, ce que je viens de dire. Peut-être qu'exercer la citoyenneté européenne implique un nouveau rapport à la politique. Vous voyez, jusqu'ici, on a pensé la citoyenneté dans les cadres de la politique nationale. Et peut-être qu'il faut tout changer. Peut-être qu'à la fin de cette conférence, vous aurez une idée d'un rapport à la politique complètement différent. Bon, on peut commencer donc. Alors, le premier point concerne un rappel sur l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe ? Alors, dans cette abréviation CE, moi je lis citoyenneté européenne. Ce que je veux vous dire avec cette schématisation, c'est que la question de rappel, qu'est-ce que l'Europe, va automatiquement nous faire converger, vous allez voir, malgré les difficultés, vers l'idée d'une citoyenneté européenne. En ce sens que la construction de l'Europe n'a pas été faite, on va voir, pour ou en vue de la citoyenneté européenne, et cependant, tout converge vers une citoyenneté européenne. J'explique cette formule bizarre. D'abord, premier point, l'Union européenne et son histoire. L'histoire de l'Union européenne. Eh bien, d'abord, on peut dire, l'Union européenne et son histoire concernent la volonté d'en finir avec les conflits nationaux, comme chacun le sait, plus ou moins spontanément. D'abord, l'idée d'une Europe unifiée est issue des suites de la Seconde Guerre mondiale. On doit ici mentionner, comme chacun sait, les noms de Jean Monnet, Robert Schuman ou Konrad Adenauer, et la communauté européenne du charbon et de l'acier. Traité signé à Paris en avril 1951, l'Europe désigne d'abord une entité, un ensemble assez imprécis, mais composé de 6 États membres. En 1957, traité de Rome, qui institue la CEE, Communauté économique européenne, à savoir le marché commun. C'est extrêmement important, le marché commun. 1993, traité de l'Union européenne, le TUE, traité de l'Union européenne, avec donc le traité de Maastricht, puis des traités complémentaires, traité d'Amsterdam 1999, 2001 traité de Nice, et enfin traité de Lisbonne, on va y revenir tout à l'heure, dont on a parlé déjà dans l'actualité, vous le savez, puisque le traité de Lisbonne de 2007 institue l'idée d'une constitution européenne. L'idée d'une constitution européenne, ce qui est un acte politique extrêmement fort. Ce rappel extrêmement rapide pour signaler que depuis lors, l'Europe constitue un ensemble de 27 nations, pour un total de 495 millions de nationaux, 495 millions de personnes. Ceux qui, parmi ces gens, exercent de fait leur citoyenneté sont également des euro-citoyens. Si vous avez la nationalité et le droit de vote dans ce pays, vous êtes immédiatement, ipso facto, comme on dit en latin, vous êtes des euro-citoyens. Alors, précisons, après ce bref rappel, les modalités d'existence de l'Union européenne. Quels sont les modes politiques de l'Union européenne? Eh bien, je crois qu'on peut distinguer trois choses. D'abord, l'Union européenne se définit par des règles communautaires. L'Union est un partenariat économique, social et politique entre États membres au sein d'un marché ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve des règles communes en matière d'échange des biens, des services, et aussi en matière de droits des personnes et des biens. Alors, chacun sait que les directives européennes, peuvent même avoir un pouvoir de contrainte sur ce marché et sur donc la circulation des personnes. Ici, vous avez tous entendu parler, par exemple, des accords de Schengen, qui impliquent des accords de sécurité, de coopération en termes de sécurité qui sont parfois présentés comme coercitifs, comme on dit, c'est-à-dire contraignants pour les personnes. Alors, deuxième point, les institutions. Alors, je ne sais pas si vous êtes au clair sur les institutions européennes. Il y a trois types d'institutions européennes, dans trois lieux différents. Le Parlement européen, où siègent les eurodéputés, pour lesquels on va voter bientôt, en France. Alors, les eurodéputés sont nos représentants au niveau européen, premièrement. Deuxièmement, le Conseil de l'Union européenne, qui représente les gouvernements, qui se réunissent régulièrement. Et troisièmement, la Commission européenne, les commissaires européens, qui sont des sortes de ministres de l'Europe. De trois niveaux différents. Alors, il faut souligner un troisième point, c'est que l'Union s'est construite sur la base d'une méthode progressive qu'on caractérise, que les spécialistes de sciences politiques, les politistes, caractérisent comme méthode de l'engrenage. Rien n'a été fait brutalement, mais tout sur le mode de l'engrenage. Alors, cet engrenage s'accélère d'une certaine manière, on va voir. Alors, cette méthode de l'engrenage repose sur l'idée d'un transfert de souveraineté. Alors, le transfert de souveraineté, c'est une notion extrêmement importante qu'il faut que vous connaissiez. On ne peut pas dire, si vous voulez, qu'on a entendu parler un peu sérieusement de l'Europe si on ne sait pas ce que c'est que le transfert de souveraineté. C'est la première notion extrêmement importante. La souveraineté définit ce qu'on appelle la prérogative d'État, traditionnellement. On entend par souveraineté le fait pour un État d'exercer certaines compétences, certaines prérogatives extrêmement importantes pour notre vie de tous les jours. Délimiter et protéger les frontières, assurer la sécurité des populations par rapport à de possibles invasions étrangères, faire et modifier les lois, établir ou rétablir l'ordre public à l'intérieur du pays, gérer les richesses naturelles, organiser la justice, battre et diffuser la monnaie, comme on dit. Alors, ces prérogatives sont très importantes. Si elles ne sont pas assumées par l'État national, ça veut dire qu'il est profondément en crise. Un État qui ne pourrait pas, normalement, délimiter et protéger ses frontières, assurer la sécurité des populations face aux étrangers, faire des lois et les modifier, sans être contesté sans cesse, établir ou rétablir l'ordre public, organiser la justice, faire la monnaie, eh bien un État qui ne pourrait pas faire ça ne serait pas, presque plus, un État. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Ce qui définit l'État, c'est la souveraineté. C'est ce qu'on appelle, ce que je viens de décrire, ça s'appelle les fonctions régaliennes de l'État. Alors précisément, ce que remet en question l'Union européenne, de manière légale, progressive, et quasiment, on va voir, naturelle, c'est ce principe de souveraineté qui est un principe fondamental. D'où les grincements, évidemment, d'où les limites. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, on a adopté l'euro, une monnaie unique. L'adoption de la monnaie unique met en question fondamentalement une des prérogatives de l'État, qui est de frapper des monnaies avec son sceau, sa marque, et qui est de s'imposer dans ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. On sait très bien, quand on réfléchit à l'origine historique de la monnaie, les spécialistes de ça, qu'en fait, les premières monnaies ont été frappées pour des raisons de domination économique, de souveraineté monétaire. Vous voyez, donc ce que ça remet en question, l'adoption d'une monnaie unique, c'est, de manière extrêmement forte, une des fonctions régaliennes de l'État. On va y revenir tout à l'heure, parce que d'autres peuvent être amenées à changer. Alors, dernier point là-dessus, néanmoins, l'Union européenne a refusé le principe politique de la fédération, comme j'ai souligné, parce que le principe de transfert de souveraineté n'est pas total. Bien entendu, toute la souveraineté n'est pas transférée. Par exemple, la police n'est pas une police européenne. L'armée française n'est pas une armée européenne. Par exemple, nos frontières restent nos frontières, même si elles sont plus facilement, passables qu'autrefois. Il y a moins de contrôle à la frontière. Voilà. Alors, j'aimerais, après ce rappel, vous voyez, c'était un premier rappel pour des choses que vous connaissez peut-être plus ou moins, je ne suis pas appesanti, j'aimerais maintenant souligner les points forts de l'Union européenne en vue de la possibilité d'une citoyenneté commune. Voilà. Quels sont les points forts de l'Europe pour la construction d'une citoyenneté commune, en dépit du fait que la citoyenneté reste tout à fait liée à la nationalité? Chacun d'entre vous se sent d'abord un citoyen français, un ressortissant français, avant de se sentir un citoyen européen. Alors que, vous voyez, j'y viens progressivement, je dévoile progressivement ce que je pense dans le fond, vous êtes quand même citoyen européen. Voilà. Donc vous sentez d'abord, souvent, spontanément, je l'ai remarqué, citoyen français, donc alors que vous êtes les deux. Alors quels sont, si vous voulez, les points forts de la citoyenneté en vue d'une citoyenneté européenne plus forte? D'abord le fait que, premier point, les cultures nationales sont finalement assez homogènes. Des cultures qui sont différentes entre nous, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, mieux même. Prenons des gens qui viennent d'intégrer récemment l'Union Européenne, les Roumains. Les Roumains. Eh bien, il y a un héritage commun gréco-latin. Il y a un héritage commun gréco-latin. Par exemple, on peut remarquer que cet héritage commun est constitué par l'ère d'influence de l'Empire romain. L'ère d'influence de l'Empire romain. Ce qui fait que les gens qui sont très 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 éloignés de l'Union européenne, parfois nous identifient comme des chrétiens, ou des athées, ce qui revient souvent mal pour eux, parfois nous identifient aussi comme des romains. Et ils n'ont pas tort, dans ce second point, ils n'ont pas tort, très clairement, du fait que même l'Allemagne, ère donc de culture germanique, a été soumise à l'Empire romain. Qu'est-ce que ça veut dire d'être soumis à l'Empire romain? Ça veut dire, pendant plusieurs dizaines, voire des centaines d'années, être soumis à une loi commune. Être soumis même à l'idée d'une loi, à la loi. Le droit romain, effectivement, réglait les rapports de toutes les populations. Ce droit romain concernait les biens et les personnes. Vous voyez, notre continent qui est en train de créer quelque chose qui n'existe pas ailleurs, à savoir peut-être une fédération et peut-être politique de nations qui n'ont aucun rapport linguistique les unes avec les autres, eh bien, s'appuie quand même sur une culture commune qui est d'abord la base de la langue latine et de la loi latine. D'autre part, plus récemment, bien sûr, l'histoire commune est très importante. Nous sommes tous liés à ce qu'on appelle en philosophie l'esprit moderne. L'esprit moderne, on s'en rend compte quand on voyage très loin, en Asie ou en Afrique, l'esprit moderne, lié à l'Europe, c'est l'esprit qui conteste les traditions. Le modernisme, en philosophie par exemple, consiste à revendiquer pour le sujet pensant, l'être humain qui pense, la compétence, entre guillemets, de juger de tout, et même du sacré. Vous voyez, par exemple, dans l'œuvre de Descartes, dans d'autres œuvres philosophiques, XVIIe siècle, l'idée que l'individu qui pense peut dire « je pense, donc je suis, je pense, donc j'estime avec raison, et je peux le prouver, que telle ou telle recommandation morale est bonne pour moi et pas telle autre ». Vous voyez, l'esprit moderne, qui est né en Europe, qui a une raison précise pour ça, mais il est né en Europe, et ce qui s'est passé, c'est qu'il est lié à l'esprit scientifique, qui consiste à essayer de tester, hein, et qui ensuite, cet esprit s'est étendu à toutes les formes de la vie courante. Voilà. Nous sommes ici, chacun d'entre nous, conscients d'être des sujets, capables de juger du monde. Ce n'est pas le cas dans d'autres aires de civilisation. Il y a des aires de civilisation extrêmement traditionnalistes, où les individus se pensent, par référence à la tradition, à des valeurs prédéfinies, à l'inclusion dans des groupes de type ethnique, culturel ou religieux, et pas loin de chez nous. Vous voyez, le point commun des nations européennes, c'est leur côté de revendication de l'autonomie du jugement des personnes. Voilà, ça c'est un point dont on ne se rend pas compte quand on ne voyage pas très loin dans des aires de civilisation qui sont très différentes. Voilà, mais ça nous réunit en dépit de toutes ces différences. Enfin, un dernier point, chacun sait que, je l'ai dit tout à l'heure, l'Union Européenne s'est basée, le projet même d'une Europe unie, s'est basé sur le traumatisme des deux guerres mondiales, ce qu'on a pu appeler le suicide de l'Europe. Le fait que cette nation qui, enfin, ces ensembles de nations, ces ensembles de nations qui dominaient le monde, bah, se sont suicidés en s'affrontant dans un combat presque jusqu'à la mort, jusqu'à l'anéantissement total de vies entières. Ouais. Vous voyez, c'est la mémoire commune des épreuves qui fait que, si vous voulez, il y a un terrain culturel relativement homogène. C'était le premier point. Deuxième point, il y a un point fort qui est lié au, à un point que j'évoquais. C'est la présence, déjà, claire, d'un espace public européen. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'espace public? Eh bien, cette notion d'espace public désigne le fait que la libre circulation des idées est permise et favorisée. Ici, chacun d'entre vous peut s'exprimer dans la presse, s'il le désire. S'il a quelque chose à dire, il peut argumenter dans la presse sur une question sociale, morale, économique ou politique. J'irais même jusqu'à dire que si jamais on vous enlevait ce droit, vous seriez profondément choqué. Vous voyez, mais de quel droit m'enlève-t-on mon droit à l'expression? Il me semble que tous les peuples européens sont marqués par cet esprit, beaucoup plus qu'ailleurs. Le moindre Espagnol, imaginons, à qui on enlèverait le droit, un Espagnol, c'est un Italien ou un Français, à qui on enlèverait le droit d'expression publique, le prendrait extrêmement mal et se sentirait touché, blessé dans sa dignité. Donc si vous voulez, ça a une histoire qui se confond avec la philosophie des Lumières, hein, philosophie du XVIIIe siècle. Vous voyez, notre histoire, elle est sédimentée dans une idée politique de notre communauté. Nous sommes une communauté politique en dépit des différences nationales. Première chose. Deuxième chose, il y a en Europe, et ça on s'en rend compte aussi dans ton voyage, une conception, une représentation du monde qu'on appelle légicentrée. La loi est très importante pour chacun de nous. Ici, nous avons des rapports qui sont des rapports sociaux. Vous êtes en face de moi, je suis en face de vous. Je prononce cette conférence, on réfléchit ensemble. Nos rapports sont quand même des rapports juridiques. Si quelqu'un, par exemple, avait la mauvaise idée de s'en prendre à moi, je porterais plainte immédiatement. C'est un rapport juridique. Tous les peuples européens se définissent par ce rapport juridique des individus. C'est très important. L'Union européenne se définit elle-même comme la protection des individus. Il y a une Union européenne qui protège les ressortissants des États membres. Vous voyez, c'est très européen. Dernier point, il y a des valeurs qui sont européennes très fortes. Et là encore, pas si loin que ça, dès qu'on prend un peu l'avion, on se rend compte qu'elles ne sont pas respectées partout. Le droit des personnes. Les droits de l'homme et du citoyen. Rendez-vous compte, même les femmes ont le droit de vote chez nous. Je dis ça parce que, en France particulièrement, il a fallu attendre quelle année pour que ça se mette en place. 1945. Cette évidence qui fait se récrier ici les jeunes filles qui désirent utiliser leur droit de vote, eh bien, cette évidence a attendu 1945 pour exister. L'Union européenne consacre les droits de l'homme et du citoyen, et cet homme et ce citoyen eux-mêmes être une femme. Donc, l'Union européenne consacre aussi, par exemple, les droits des enfants, consacre aussi la solidarité. Voilà. Et il y a une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a une charte. Vous pouvez aller voir sur le site Europa. Le site Europa. Le site Europa, je vous y renvoie, vous donne l'idée de ce que signifie cette charte des droits fondamentaux qui vous garantit, qui que vous soyez, donc femmes, hommes, enfants, etc., des droits fondamentaux basés sur des valeurs qui sont celles de la reconnaissance de la dignité. Vous voyez, la dignité de la personne. Toute l'Europe se reconnaît là-dedans. Alors, c'était le premier point. Je pense qu'il est quand même nécessaire de souligner les difficultés de la citoyenneté européenne. Il est très, sur ce sujet, facile, et on va aller vite, de remarquer, à mon avis, quatre difficultés. Première difficulté, dont on a eu une idée, un indice, avec l'acceptation, ou la non-acceptation surtout, par les différentes nations, de la Constitution européenne. Cette fameuse Constitution européenne, dont vous avez entendu parler, probablement, il y a eu un référendum pour l'accepter. Est-ce que la France l'a acceptée ? Non. Cette Constitution européenne avait été ratifiée par les 25 États membres à l'époque, en octobre 2004. Et simplement, on disait, voilà, il faut que les populations l'acceptent. Alors, comment peuvent-elles l'accepter ? Ben, soit par le biais de leurs représentants, par les parlementaires, à savoir les députés et les sénateurs, qui valident, en tant que représentants des citoyens, la valeur, le bien fondé, la constitutionnalité, le caractère constitutionnel de ce texte. Ça a été le cas dans d'autres pays, qui, du coup, ont accepté, puisque les élites politiques étaient d'accord, étaient plutôt européanophiles, ont accepté le traité. Nous, on a soumis ça, c'était l'autre solution possible, au référendum populaire. Dans le même ordre d'idée, le traité de Maastricht avait été refusé par les Danois, qui l'avaient soumis à référendum. Alors, il y a une situation de blocage. Les Français ne veulent pas de constitution européenne, en tout cas, précisément, de cette forme de constitution. Pourquoi ? Et il y a eu plusieurs commentaires dans la presse, hein, les gens autour de vous qui ont voté ont dû vous le dire, soit ils le trouvaient trop à droite, certains, plus rares, le trouvaient trop à gauche. Mais ça s'est entendu. En tout cas, il y avait un problème, c'est que c'était surtout un traité diplomatique, comme le rappelait l'ancien ministre Hubert Védrine, il a dit des choses très intéressantes, il dit c'est un traité d'alliance, c'est pas une constitution. À la limite, c'est mal perçu politiquement, parce que ce n'est pas assez politique. On n'a pas assez réfléchi, on n'a pas assez fait les opérations que j'ai décrites tout à l'heure, délibération, adoption d'une volonté commune, désir de s'inscrire dans l'histoire. Bon. Premier point, première difficulté. Deuxième difficulté, il y a donc des élections européennes avec des eurodéputés qui sont nos représentants. Le taux de fréquentation est assez faible, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors d'où vient que les gens ne votent pas ou peu, ou se mobilisent peu dès qu'il y a le printemps, ils préfèrent aller se promener, plutôt que d'aller voter, exercer leurs droits civiques, agir sur la société européenne et sur leur nation, par le biais de, des élections. Et d'où ça vient? Ça vient sans doute du sentiment de distance, du sentiment de peu de proximité. Nous allons voter pour notre maire, pour notre député, nous allons voter pour notre président parce que nous nous sentons concernés. On ne va pas voter pour les eurodéputés. Bon, ou beaucoup moins. Troisième chose évidente, vous avez entendu parler du nationalisme, le nationalisme qui consiste à considérer par exemple que les étrangers sont inférieurs à nous. Le nationalisme est une attitude qui consiste à agir à partir de l'idée qu'on est supérieur aux autres. Eh bien, il me semble que souvent l'Union européenne, son avancée correspond aux avancées, à des avancées du nationalisme, des retours du nationalisme. Un des facteurs d'aggravation, c'est évidemment que ici vous maîtrisez peut-être une langue, peut-être deux, peut-être trois, mais fondamentalement, vous ne maîtrisez pas toutes les langues européennes. Voilà. Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de langue européenne. Il n'y a pas de langue suprême en Europe, il n'y a pas de langue supérieure. L'Europe, évidemment, est réticente à adopter l'anglais comme langue européenne, comme langue, si vous voulez, européenne, évidemment, parce que ça renverrait éventuellement à la domination des USA. Au Parlement européen, plusieurs langues, simultanément, sont parlées, vous voyez. Alors, on connaît le mythe de Babel. Merci. On connaît le mythe de Babel, la tour de Babel, dans la Bible. Eh bien, on peut dire que l'Europe correspond à une telle... L'Europe correspond à une telle configuration. Voilà. Enfin, dernier point... Vous laissez vite divertir, quand même. Bon, dernier point. L'Union européenne paraît souffrir, eh bien, d'un déficit politique et démocratique. Voilà. J'y insiste pas. L'Union européenne est d'abord économique. Alors, après cette deuxième partie, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aux possibilités d'évolution. Alors ici, je vais vous demander votre participation. Vous voyez, jusqu'ici, c'est moi qui ai travaillé. Maintenant, c'est vous. Bonne surprise, n'est-ce pas? Ici, j'ai devant moi un certain nombre de sujets autonomes dans leur jugement philosophique. Capables de s'exprimer. Ces individus sont des nationaux de différentes nations. Mais statistiquement, j'imagine, plutôt français. Ils sont aussi des citoyens, voire des euro-citoyens. Alors, tout à l'heure, le micro va circuler et vous allez pouvoir vous exprimer. Mais simplement, l'effort que vous allez devoir faire maintenant est un effort d'imagination. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit que pour comprendre la citoyenneté européenne, il ne fallait peut-être pas penser dans les cadres de la nationalité. Il va falloir qu'ici, on réfléchisse aux possibilités d'évolution de la citoyenneté européenne. Comment, peut-être, allons-nous ici, à Avignon, aujourd'hui, imaginer que nous sommes d'abord des Européens avant d'être des Français? Bon, alors, je m'explique. Il va falloir essayer de penser, techniquement dit, la citoyenneté au-delà de la nationalité et au-delà de l'État. Or, jusqu'à maintenant, depuis qu'il y a de l'État et de la citoyenneté, depuis les Grecs, depuis l'Antiquité, c'est-à-dire il y a 2000-2500 ans, ça fait 2500 ans qu'on pense la citoyenneté par rapport à l'appartenance ethnique et politique. Ça fait 2500 ans qu'on nous dit, si tu n'es pas né à Athènes, si tu n'es pas né en France, tu ne peux pas exercer tes droits. Tu ne peux pas, tu as des droits sociaux, tu peux avoir la sécurité sociale, mais tu ne peux pas agir sur la destinée du pays. Ce qui se passe avec l'Union européenne, eh bien, c'est une remise en question totale de ça. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du monde. Voilà. Alors, le point est important. Vous voyez, qu'on soit plus ou moins européanophile ou européanophobe, qu'on soit eurosceptique ou euro-enthousiaste, eh bien, forcément, il y a un enjeu extrêmement important dans ces questions. Alors, jusqu'ici, il y a plusieurs modèles qui sont apparus pour réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'est que penser l'appartenance citoyenne sans l'appartenance ethnique, ni politique, étatique? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, voilà, on va faire ce que faisait un auteur qui s'appelait Ernest Renan, qui proposait une première solution. Il y a combien de fois On va faire ce que proposait Ernest Renan, vous voyez, un homme du 19e siècle. Renan est un auteur intéressant parce qu'il écrit dans le contexte de l'opposition très violente entre la France et l'Allemagne, qui va donner, il écrit en 1882, il écrit ça au moment où on prépare, vous voyez, vous avez entendu parler de ça, la reconquête de l'Alsace et la Lorraine. Cette reconquête de l'Alsace et la Lorraine, l'Allemagne les avait conquis ces deux régions pendant la guerre de 1871. Et tout le monde savait qu'il y avait une compétition entre la France et l'Allemagne sur le territoire européen et en Afrique, dans le cadre du colonialisme, pour s'assurer ce qu'on appelle le leadership européen. Et ça a donné la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale a donné la Deuxième. En 1882, Ernest Renan prononce une conférence en disant « ça suffit, on va à la catastrophe, de fait on est allé à la catastrophe. Ce qu'il faut faire, c'est penser la citoyenneté comme une adhésion volontaire. Il faut demander aux gens s'ils sont d'accord. Et c'est une solution abstraite, une solution utopique qui consiste à demander à chacun s'il est d'accord. » Alors, la solution de Renan implique, vous voyez, une approche rationnelle et universaliste de la citoyenneté. Bon, elle est intéressante, c'est peut-être une base. Le problème, c'est qu'elle ne donne pas de réponse précise. C'est pas une solution, quoi. C'est pas une solution. Il ne suffit pas de faire un référendum européen pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que vous voulez. C'est peut-être un horizon. Peut-être qu'un jour, on pourra étendre l'espace public européen à la définition même de la citoyenneté, mais c'est un peu difficile. Il y a plein de réticences. La plupart des gens vont dire, attendez, moi ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est Avignon, ma région, et la France. Et beaucoup de gens auront cette attitude. Bon. Alors, la solution de Renan s'adapte pas vraiment, en tout cas tout de suite. Deuxième solution, qui est mise en œuvre dans certaines, vous allez voir, certaines dispositions, la solution qu'on appelle le multiculturalisme. La solution multiculturaliste. Solution de type anglo-saxon. Solution même précisément inventée au Canada. Au Canada, il y a des gens qui parlent anglais, des gens qui parlent français. Parfois, ils ne s'entendent pas. Comment faire? C'est même une terre d'immigration. Une terre d'immigration où vous avez des gens d'origine extrêmement variée, d'aires culturelles très variées, par exemple, des gens qui viennent d'Inde, précisément, par exemple, des Sikhs, des gens qui portent un turban. Des gens qui portent un turban parce qu'ils ont des cheveux très longs, les garçons, et qui, lorsqu'ils sont des jeunes gens, comme vous l'êtes, vous, exigent, pour se sentir vraiment bien, de porter un poignard à l'école. Faut-il leur donner ce droit? N'est-ce pas une violence terrible que de leur dire « Non, 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 chez nous, pas de poignard dans la cour de récré, c'est beaucoup trop dangereux. Hein, » je veux dire, un long poignard à la ceinture, un turban et beaucoup de cheveux dessus. Alors, vous voyez, la solution multiculturaliste, tenez-vous bien, c'est une position extrêmement opposée à la nôtre, estime que leur ôter ce droit, c'est une violence qu'on leur fait. On n'a pas le droit d'ôter aux jeunes sikhs cette prérogative, cette revendication culturelle qui les définit, d'avoir des longs cheveux et un turban, et surtout un poignard, sinon ils ne se sentent pas bien. La solution du multiculturalisme implique ce qu'on appelle le différentialisme des droits. Les droits sont différenciés en fonction de l'appartenance ethnique originelle. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que nous, on a parlé de la laïcité, dans le cadre de la laïcité à la française, on a parlé de l'affaire du voile, par exemple. Le fait est que cette revendication particulière d'une apparence physique voilée de la part des filles a été perçue comme inégalitaire entre les hommes et les femmes, hein, reposant éventuellement sur la tentative de domination masculine des femmes. La solution multiculturaliste est une solution aux antipodes de notre façon de voir les choses, qui est d'une façon égalitaire ou égalitariste, équitable, au niveau des droits des personnes, avec l'idée d'une identité abstraite des personnes, une identité abstraite des personnes. Eh bien, la solution multiculturaliste, curieusement, fait un retour dans les théories européennes, quand on va penser à la citoyenneté européenne. Peut-être qu'on peut imaginer un système où les droits seraient différenciés en fonction de l'origine nationale et ethnique des gens. Ce que ça permet de comprendre, cette idée, c'est qu'on peut intégrer peut-être les musulmans, avec une forte tradition différente de la nôtre, dans le système européen. C'est la fameuse question, tout le monde en parle, personne n'a la solution, de l'intégration d'un pays qui est plutôt occidental et moderniste, mais à certains égards extrêmement musulman avec une tradition de résistance à l'Europe, c'est la Turquie. Alors, le problème du multiculturalisme, évidemment, c'est qu'il met en question l'idée du sujet abstrait. Si ici il y avait un philosophe, il vous verrait comme des sujets abstraits. S'il y avait un multiculturaliste, il vous verrait dans vos différences ethniques originelles. Vous voyez, on est aux antipodes. Or, pour l'instant, l'Union européenne est plutôt tourné vers l'abstraction. Vous êtes des personnes au sens juridique et abstrait du terme. Des sujets autonomes d'un point de vue abstrait. Donc la solution multiculturaliste est extrêmement intéressante. On peut imaginer que les Portugais, les Roumains, les Danois ont des cultures différentes, donc peut-être des prérogatives juridiques différentes en fonction de leur identité. Ça pose un vrai problème quand même. Là, ça pose le problème de l'inclusion de la personne dans son appartenance. Voilà. L'inclusion de la personne dans son appartenance. Toi qui parles, tu n'es pas d'abord un citoyen et un être humain au sens abstrait du terme. Tu es d'abord un Danois, un Sikh, un Portugais, etc. Troisième solution, inventée par un philosophe, par une série de philosophes très proches de l'esprit des Lumières, qui s'appelle le patriotisme constitutionnel. L'idée, c'est que chacun reste lié à sa patrie, mais il adopte dans sa tête une charte constitutionnelle, qui sont les valeurs de l'Union européenne. Vous voyez, ça concilie les deux aspects qu'on vient d'évoquer, le patriotisme à la française, le fait d'adopter rationnellement un idéal de vie commun, et le multiculturalisme qui nous enferme dans nos particularités. Vous voyez donc, il y a trois solutions en ce moment dans les débats. Je suis ici pour vous signaler qu'il y a des débats extrêmement importants qui vont vous changer vos manières de faire dans les dizaines d'années qui viennent, et celles de vos enfants. Et ces trois manières de voir s'affrontent en ce moment dans le champ des idées politiques. Alors, avant de vous faire réfléchir de manière vraiment plus marquée, j'aimerais rappeler que, faire une remarque en disant que le patriotisme, c'est une question de symbole. Ici, vous allez peut-être soutenir l'équipe de France, lorsqu'elle de football par exemple, ou de rugby, lorsqu'elle joue. Par exemple ici, certains qui sont amateurs de rugby, comme moi, vont vibrer au match contre les Anglais. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est-à-dire? Oui, mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on aime là-dedans? Ce qu'on aime là-dedans, si vous voulez, c'est l'idée que on est plus comme nous que comme eux. Et même si on force un peu le trait, les joueurs qui sont sur le terrain, on les aime bien certains parce qu'ils nous représentent mieux. Ils sont quand même plus comme nous que les autres. Les autres sont quand même vraiment différents, et puis ils sont quand même moins bien. Et quand eux, quand l'anglais, malheureusement, au rugby, ça arrive souvent, triomphe, on se dit, ouais, bon, c'est quand même pas normal, c'est assez illégitime. Si les choses étaient bien faites, notre patriotisme nous dit que, quand même, les gens vraiment supérieurs auraient marqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le patriotisme, il y a l'idée, vous voyez, d'une appropriation, qu'on appelle affective en philo, passionnelle, de choses abstraites. Quelles sont ces choses abstraites? Des symboles. Nous sommes plutôt des bleus que des blancs. Nous sommes plutôt des coqs que des roses, etc., etc. On peut trouver tous les symboles nationaux possibles. Alors ça, c'est étonnant parce que les symboles européens existent. Ça fait longtemps qu'ils existent. Quels sont les symboles importants? Il faut une fête nationale. Ici, le 14 juillet, quand même, il y a des balles, il y a des feux d'artifice, les enfants aiment bien, progressivement on s'amuse, et on dit 14 juillet, fête nationale. Attention, fête nationale, nous, ça reste quelque chose d'assez modéré. Il y a des pays très rationalistes, comme les USA, ou la Suède, ou la Norvège, moi j'ai eu des étudiants nordiques, qui sont beaucoup plus patriotes que nous, et qui, le jour de la commémoration nationale, se mettent au garde à vous devant un drapeau qu'ils ont chez eux. C'est rare quand même qu'un Français, le 14 juillet, hisse les couleurs. On se dit, mais c'est quoi cet original? Il y en a un qui fait ça près de chez moi, tout le monde se dit, c'est quoi cet original? C'est un patriote. C'est quelqu'un qui, de manière solennelle, arrive avec son drapeau et le monte sur un mât, chez lui, le 14 juillet. Moi, je l'ai vu faire par des étudiants norvégiens et suédois dans la cour du lycée où j'enseignais, où il y avait vraiment une section nordique. Tout le monde sait ici que le jour de l'indépendance américaine est un jour sacré. Il y a une sacralité presque religieuse liée à la commémoration du jour national. 14 juillet, des gens sont morts pour nous en prenant la Bastille. On est libre, on peut s'exprimer, parce que des gens sont morts. Voilà. Donc, bon, il y a une sorte de sacralité. Or, il y a une journée de commémoration européenne. Il y a un symbole du même ordre en Europe. C'est le 9 mai. Personne ne le savait sans doute, ou très peu. C'est la journée de l'Europe, qui correspond à la déclaration par Robert Schuman en 1950, qui signale le début d'une Europe unie. Et c'est le moyen pour l'Union européenne de sensibiliser les peuples européens par des pratiques festives. Bon, pourquoi ne pas abolir le 14 juillet au profit, et tous les 14 juillet nationaux au profit du 9 mai? On verra. Deuxièmement, il y a un drapeau. Il y a un drapeau européen. Je l'ai dit, c'est important, vous savez que vous n'avez pas le droit de dégrader le drapeau national, pas le droit d'enflammer le drapeau national publiquement. Vous êtes puni d'une lourde amende, vous avez une peine. On n'a pas le droit de profaner le drapeau national. Essayer de le faire avec le drapeau américain, c'est encore pire. Vous risquez de vous faire lâcher par les Américains même. Eh bien, dans le même ordre d'idée, le drapeau, qui est symbolique, qui est un symbole approprié, effectivement, on peut y voir, chez nous, le rouge, c'est-à-dire le sang versé pour la liberté, eh bien, il y a un drapeau européen. Ce drapeau européen, je m'étonne d'ailleurs qu'il ne soit pas dans cet endroit, ce drapeau européen, qui doit être dans le bureau du proviseur, eh bien, est un drapeau sur fond bleu marine, composé d'un cercle d'étoiles. Combien d'étoiles ? 12. Pourquoi ? Alors, j'ai fait mon enquête, je croyais comme tout un chacun que ces étoiles correspondaient au nombre d'États au moment où. En fait, non. Le drapeau a été anticipé quand il y avait 6 États. Le cercle, 12 étoiles, ne représente pas le nombre d'États. Ce n'est pas comme la bannière américaine, Stars and Stripes, où chaque étoile, signifie un État. Non. Et c'est un peu le problème, vous allez voir. C'est abstrait. Le cercle de 12 étoiles représente quelque chose qui est censé être parfait, une harmonie entre les peuples. Une harmonie. Ça ne représente pas le nombre d'États. Moi, je serais pour qu'on mette 27 étoiles. Que chaque État dise, ça, c'est mon étoile. Et même que dans l'étoile, on mette le nom des pays. Vous voyez, une sorte d'appropriation, en disant, voilà. Bon. Alors, d'autre part, il y a un vrai problème, c'est que l'Union Européenne, c'est le symbole, donc effectivement, le drapeau, etc. Mais si vous allez sur le site Europa, vous verrez le nombre effrayant de sigles européens différents, en fonction des agences. Les agences pour l'énergie, les agences pour la réflexion de la défense commune. Elles ont chacun un sigle qui, si l'on veut, effectivement, décline le fond bleu et les étoiles. Et c'est très différent. C'est-à-dire que là encore, ça manque d'unité. Ça semble très technocratique. Alors, plus grave. Ici, peut-être qu'il y a certains qui font comme moi, j'avoue. Moi, je monte le son quand j'entends la Marseillaise. On sait le rugby. Voilà. Et nous écoutons aussi les chants gallois avec beaucoup d'émotion, Flower of Scotland, etc. Bon, je file la métaphore du rugby. Excusez-moi pour ceux qui sont amateurs d'autres sports. Quoi qu'il en soit, ici quand même, je sais pas, moi l'autre jour, j'ai un jeune fils, un jeune et vaillant rugbyman, et je sentais bien qu'il était sur le point de pleurer après la Marseillaise. Et je me suis dit, voilà, c'est intéressant. Ce petit gars, finalement, il peut se battre pour les couleurs. C'est un patriote. Forcément, il y a toujours quelqu'un de bien dans un patriote. Quelqu'un qui est capable de se convaincre qu'il va défendre les siens contre les autres. Alors évidemment, ça peut devenir un peu dangereux d'aller jusqu'au bout et d'être nationaliste. Alors on définissait, vous savez, le patriotisme comme l'amour des siens et le nationalisme comme la haine des autres. Alors avoir le sens de sa communauté, c'est important. Il y a des excès, il faut faire attention. Il y a un hymne européen. Alors bon, j'ai mon ordinateur portable, j'ai enregistré l'hymne pour vous le passer, je ne pourrais pas le faire. Alors, je ne vais pas le chanter non plus, sinon il va pleuvoir. C'est tiré de l'Aude à la joie de Ludwig van Beethoven. L'Aude à la joie. Alors ici, quelqu'un qui a un peu de culture, de musical, sait que l'Aude à la joie, c'est dans la 9e symphonie de Beethoven, le dernier morceau, et c'est inspiré d'un texte d'un certain Schiller, philosophe, auteur allemand, Schiller. Ce Schiller commence son hymne, enfin son ode par « Mes amis, Freunde, mes amis ». Et puis c'est un ode à l'amitié, attention, l'amitié entre les peuples, au-delà des différences nationales. On se dit, voilà, effectivement, l'ode à la joie devient l'hymne européen, Beethoven, Schiller, l'idée de l'universalisme des Lumières, Descartes, Kant, toute la grande tradition, des droits de l'homme, etc. Tous les hommes, par la raison, Renan dit la même chose, peuvent et doivent se sentir frères en dépit de leurs différences de langue, de constat. Or, première chose, si vous les allez sur le site Europa, vous apprenez que l'hymne européen n'est pas fait pour remplacer les hymnes nationaux. Pourtant, il nous fait vibrer si on écoute vraiment belle musique, etc. Il est symbolique, comme l'est un peu le drapeau. De plus, point important, imaginez, c'est difficile ce qu'on ne peut pas vous allez voir, mais imaginez, est-ce que vous pourriez chanter la Marseillaise si cet hymne n'avait jamais eu de parole ? Ben non. Dans la Marseillaise, il y a un mix bizarre dans nos cœurs, d'émotions liées aux paroles. Attention, il faut défendre la terre sacrée contre les ennemis. Et puis après, on chante, donc il y a une sorte de lien entre la parole et la musique. Or, l'hymne européen, n'est pas l'ode à la joie, contrairement à ce que je le croyais. Je croyais moi, même en préparant cette conférence. L'hymne européen n'a pas de parole. Donc imaginez fredonner au lieu d'adhérer par des paroles. C'est assez difficile. C'est très intéressant de voir que là, il va peut-être falloir faire un effort d'imagination pour trouver les paroles de l'hymne européen. Alors j'ai une de mes filles qui à votre âge qui me disait, mais enfin papa, c'est insensé. Dans quelle langue ça va se faire? À vous de trouver, vous êtes des citoyens européens. Après tout, l'ode à la joie est en allemand. Les Allemands sont nos frères. Reprenons l'ode à la joie. Bon, il y a déjà des gens qui disent c'est pas beau l'allemand. Des eurosceptiques. Alors, une solution serait peut-être de chanter chacun dans sa langue. Les poètes vont devoir, parce qu'il faut que ça corresponde, etc. Bon, d'accord. Moi, je propose d'alterner les mots en fonction de la nationalité, c'est-à-dire un mot français, 27, tous les 27, on fait 27 fois un mot différent, puis on revient au français. Français, allemand, voilà. Bon, évidemment, ça serait c'est bizarre. Bon, mais vous voyez, l'idée, c'est que là, il y a un problème, c'est qu'on a un symbole patriotique et on ne peut pas s'approprier. Alors j'ai dit, rappelez-vous, une journée de commémoration, un drapeau, un hymne, on a une devise. La devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Valeurs qui, pour la liberté et l'égalité, et la solidarité, qui est une forme de fraternité, sont reprises dans l'Union européenne, quand même. Ce sont des valeurs relativement universalistes, hein. Bon, pas seulement particulières à notre histoire. Eh bien, il y a une devise européenne. Vous la connaissez? Eh bien, la voici. Unis dans la diversité. Il y a une diversité et il y a une union. Unis dans la diversité. C'est-à-dire que, malgré nos différences et malgré le fait qu'on garde la souveraineté nationale. Alors, cette devise a été un peu scandaleusement... Elle a été présentée en 2000, elle est récente. Présentée en 2000, donc elle n'a pas 10 ans. Mais elle a été, si vous voulez, elle a été décalquée de manière assez... disons les choses subtiles et intéressantes de la devise américaine. Qui est? Il y a plusieurs devises américaines. Enfin, il y en a une qui est sur le grand sceau des USA. Le grand sceau des USA, vous savez, c'est l'aigle terrifiant là, qui a derrière le président lorsqu'il parle. Quand le président américain parle, il y a à la Maison Blanche le grand sceau derrière avec l'aigle qui tient, si je me souviens bien, la foudre hein, de autrefois Zeus. Donc qui déclenche éventuellement la guerre. Eh bien, cette devise américaine, c'est une devise latine, extrêmement ancienne, qui est « et pluribus unum ». Voici la devise des USA, « et pluribus unum ». C'est une devise latine parce qu'elle est inspirée de l'expérience politique des Romains. C'est une devise qui signifie « et de plusieurs, nous ferons un seul ». Et de plusieurs, nous ferons un seul. Les USA sont une fédération au sens politique du terme. Nous sommes une fédération au sens non politique, voire anti-politique du terme. Unis dans la diversité, d'un côté, et de plusieurs, nous ferons un seul. Donc vous voyez l'idée d'un projet commun. Et chacun sait ici que si le président... Barack Obama, le candidat, a réussi à devenir président. Ah oui, donc unis dans la diversité, bon, oui, mais peut-être il faut ajouter une dimension qui manque encore. Alors, dernier symbole, qui n'est pas vraiment un symbole, c'est une monnaie, l'euro, qui est entrée en vigueur donc le 1er janvier. Alors là encore, je sors un billet. Voilà, nous avons ici un billet qui est l'euro. Qu'y a-t-il sur l'euro, sur le billet? Il y a la carte, oui, non, il y a la carte du pays, et de l'autre côté, il y a des édifices ou des sites remarquablement dessinés qui évoquent la culture, mais il n'y a pas de devise, il n'y a pas de symbole fort. Il y a des paysages désincarnés. Quelle est la monnaie américaine? Le dollar? Qu'y a-t-il sur cette monnaie? L'oncle Sam, d'une part, et une devise incroyable. In God, we trust. C'est écrit sur le dollar. Le billet vert est inscrit en Dieu, nous croyons. Attention, c'est un pays rationaliste. C'est un pays rationaliste. C'est même la première constitution au monde en 1787 et 91 où on n'est pas obligé de jurer sur la Bible, de prêter serment. Dans les faits, certains présidents, je crois que c'est Abraham Lincoln, hein, ont recommencé à prêter serment sur la Bible. Bon, mais c'est un pays où il n'y a pas de religion d'État. Il y a des pays comme l'Irlande, il y a une religion d'État, hein, le catholicisme. Il n'y a pas de religion d'État aux USA. Chacun peut faire la religion qu'il veut. Mais le président, si vous voulez, prête serment jusqu'à maintenant sur la Bible. Et il y a marqué sur le billet vert « In God we trust ». Vous transmettez de l'argent sur lequel, aux USA, vous sentez américain, si vous transmettez de l'argent sur lequel il est écrit « En Dieu, nous croyons ». La question de Dieu m'intéresse moins en tant que politiste, philosophe politique, que celle de « We trust ». En quelque chose de commun. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons à quelque chose. Il n'y a rien d'écrit de cet ordre sur le billet européen. De même que le drapeau est un drapeau symbolique qui ne représente pas les États, de même que l'hymne est sans parole, de même que la devise manque un peu d'énergie par rapport à la devise américaine, eh bien la monnaie ne figure pas une chair commune. Vous voyez, l'idée d'une croyance commune. Alors voilà, donc si vous voulez, maintenant, dans les faits, vous voyez, j'ai attendu le dernier moment pour vous dire que il y a une citoyenneté européenne depuis le traité de Maastricht. Depuis 1993, l'article 8, c'est la première fois que ça arrive, signale qu'il y a quelques modes précis de la citoyenneté européenne. Ici, vous avez certains droits. Tout citoyen d'un État membre, évidemment, a le droit de circuler librement dans les autres, sur le territoire des autres États membres. Il peut même s'y installer. Première chose. Plus précis, déjà beaucoup plus fort, tout citoyen de l'Union européenne qui réside dans un État membre dont il n'est pas le ressortissant, par exemple ici, si parmi nous il y a des Italiens, des Roumains, ou si nous allons habiter en Espagne, eh bien, nous pouvons voter à deux types d'élections et nous présenter comme candidat à deux types d'élections. Chacun est peut participer par son vote et peut être éligible, peut être élu, si vous voulez, aux élections municipales et aux élections, évidemment, européennes. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir à Avignon un maire italien, de nationalité italienne, un maire danois, un maire roumain, etc. Vous voyez, c'est une prérogative extrêmement forte. C'est extrêmement fort quand même ça. Troisième caractéristique de l'union, de la citoyenneté, alors ça c'est très intéressant. Admettons que vous soyez en voyage en dehors de l'Europe, dans un pays qui ne connaît pas de diplomatie française. Il y a des pays avec lesquels nous avons rompu nos relations diplomatiques. Vous êtes un citoyen français et européen, vous avez un problème dans un pays du monde, ça peut arriver pour le tourisme, où vous n'êtes pas, couvert par un consulat ou une ambassade, eh bien, en tant que citoyen européen, obligation est faite aux pays membres de l'Union européenne de vous considérer comme un de leurs ressortissants. C'est extrêmement important, ça évoque le droit de citoyenneté des Romains, qui fait que, même en dehors de l'Empire, on pouvait vous protéger. Voilà. Troisième disposition, vous disposez d'un droit de pétition. Vous avez le droit de vous exprimer. Alors, vous avez le droit d'envoyer des pétitions à l'Union européenne, et mieux même, vous avez le droit, depuis le traité de Lisbonne, vous avez un droit à une initiative populaire. Si vous êtes 1 million... issus de différents États, alors là encore des États qu'on a évoqués, vous pouvez écrire des pétitions et les envoyer à la Commission européenne qui va prendre en compte votre revendication en disant on n'est pas d'accord avec cette directive et vous allez exercer ce droit d'initiative populaire pour modifier la décision européenne. Donc attention, ça c'est déjà de la participation au sens politique du terme. Seulement il faut être 1 million, en même temps il y a 495 millions de personnes dans l'Union européenne, on peut les trouver quand même, sur des grandes causes comme le fait de légaliser le fromage au lait cru, enfin des choses comme ça. Quoi. Par exemple, s'il y a une directive européenne qui nous embête, on dit attention, le fromage au lait cru, on peut peut-être l'exporter sans problème, on n'est pas mort. Après tout, il y a des choses qui font plus de ravages que le camembert. Eh bien, on va trouver 1 million de personnes pour exercer ce droit d'initiative. Alors, voilà, je conclue. Projetons-nous dans le futur. À moyen terme. 20 ans, 50 ans, 100 ans. Moyen terme. Historiquement, c'est un moyen terme. Qu'est-ce qui se passe? Comment on est dans 100 ans? Est-ce qu'on peut imaginer l'abolition du principe de souveraineté? C'est-à-dire Est-ce que, après la monnaie unique, il peut y avoir une défense unique? Une défense unique. Il n'y a plus de soldats français, il y a des soldats européens. C'est déjà un peu le cas. Il y a un Eurocorps, une armée franco-allemande. C'est très fort historiquement. Il peut y avoir une police européenne. Imaginez, une police européenne. Le policier n'est pas... il y a police municipale, mais il n'y a pas de police, mettons, nationale. Est-ce qu'on peut imaginer une fiscalité européenne? C'est-à-dire que les États riches, selon le principe de l'imposition progressive, payent plus que les États qui sont moins riches. C'est déjà plus ou moins le cas. Est-ce qu'on peut imaginer un président de l'Union européenne? Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une langue commune enseignée à l'école comme langue, première langue obligatoire? Alors, vous me direz, il y a plus ou moins l'anglais comme langue commune obligatoire. Mais précisément, cet anglais lié à l'américain. Imaginons une langue. Certaines tentatives ont été entreprises, comme celle de l'espéranto, par exemple. Une langue faite à partir des radicaux, du latin, d'autres langues, etc. L'espéranto, langue commune européenne. Pas maintenant, là. 20 ans, ça peut venir très vite. 50 ans, 100 ans. Est-ce que l'Europe doit adopter des symboles qui sont des symboles communs en mettant, en minorant, en recouvrant progressivement le drapeau français par le drapeau européen? Bon. Alors en tout cas, vous voyez, ça peut sembler de la politique fiction parce que c'en est. Donc vous voyez, Jacques Delors, l'ancien homme politique, enfin, homme politique très important, qui a une action très importante en France, parlait pour l'Europe d'un OPNI. Il parlait pour l'Europe d'un objet politique non identifié. C'est pas qu'il est non identifiable, c'est qu'en fait, si nous, vous, ne faisons pas, ne faites pas l'effort utopique d'imagination de la citoyenneté européenne, vous voyez, eh bien, l'OPNI ne pourra jamais devenir ce qu'est normalement une politique commune, c'est-à-dire... Il n'y a pas de politique sans l'idée d'une chose commune, en latin, res publica. La notion de république, c'est celle d'une notion qui rassemble des gens qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas forcément envie d'être ensemble, d'ailleurs, à la base. Et, si vous voulez, tout le travail consiste, maintenant que je vous donne la parole, de transformer l'OPNI en res publica. Je vous remercie.